Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h. On est avec vous, bien sûr, grâce au 3216, votre numéro, et grâce à l'application RMC, rubrique Direct Studio. On est avec qui aujourd'hui? On est tout d'abord avec Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Daniel Riolo vient de faire son entrée dans le studio. Ça tombe bien, on parle de l'équipe de France, dites donc aujourd'hui, Daniel.
Je pense que tu l'as fait exprès, Estelle. Oui. Bonjour tout le monde.
Oui, enfin, en même temps, c'est les deux mois de la Coupe du Monde, donc je...
C'est peut-être aussi que la Fédé mérite qu'on parle d'elle.
La Fédé.
Comment va ton ami, au fait?
La Fédé et l'équipe de France. La militante écologiste Mathilde Dimeur est avec nous. Salut Mathilde.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et puis le journaliste Marianne Perico Légas. Salut Perico.
En meilleure forme que les Bleus, en tout cas.
Bah, personne n'est en moins bonne forme que les Bleus en ce moment. Donc,
ouais, je suis pas en super forme. Je prouve quelque chose. Là, oui.
Allez, au sommaire aujourd'hui, le grand déballage sur les violences conjugales en politique avec Sandrine Rousseau qui balance sur Julien Bayou hier. Faut-il vraiment en passer par là? Votre avis au 32-16. À midi et demi, une semaine de vacances en plus pour les étudiants de la fac de Strasbourg pour faire des économies d'énergie. Est-ce que ça vous choque? À 13h, scandale, blessure en cascade. Faut-il être inquiet pour les Bleus à deux mois pile de la Coupe du Monde? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et peut-être une bonne nouvelle concernant nos assurances. À 14h, 8 Français sur 10 sont seuls dans leur voiture. Faut-il rendre le covoiturage obligatoire aux heures de pointe? On attend bien sûr vos réactions sur l'application RMC. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on démarre tout de suite avec l'actualité du jour. Et c'est bien sûr le grand déballage sur les violences en politique qui continuent après l'affaire Quatennens. Hier, Sandrine Rousseau a mis en cause Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie et Verts. C'était dans l'émission C'est à vous, écoutez.
Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc...
Éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
On verra, step by step.
Et le petit sourire de Sandrine Rousseau. En tout cas, l'affaire Julien Bayou, juste après l'affaire Adrien Quatennens, ça commence à faire beaucoup, notamment du côté de la NUPES. Rémi Barré.
Exactement, parce que il faut s'en souvenir, il y a eu l'affaire Taaf Bouafs, accusée en mai dernier par plusieurs femmes de violence et d'agression sexuelle et de harcèlement sexiste. À l'époque, il était candidat pour la NUPES. Accusation qui avait d'ailleurs sonné le glas de sa candidature aux législatives. À la même époque, nous sommes toujours au mois de mai, c'est au sein de La République En Marche que l'investiture de Jérôme Peyrat dans la 4e circonscription de Dordogne provoque des secousses. L'ancien conseiller de l'Élysée a été condamné en septembre 2020 à une amende de 3 000 euros avec sursis dans une affaire de violence envers son ex-compagne. L'affaire est révélée en pleine législative. Lui aussi devra renoncer à sa candidature. Quelques jours plus tard, c'est l'affaire Damien Abad. Au lendemain de sa nomination dans le gouvernement Borne en tant que ministre des Solidarités, Mediapart révèle sa mise en cause par deux femmes pour deux viols présumés. Il y aura ensuite une troisième accusatrice et Damien Abad sera écarté du gouvernement en juillet lors du remaniement suivant les élections législatives. Et à l'époque déjà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais une certaine Sandrine Rousseau s'était félicitée de cette issue, évoquant un signal important envoyé aux femmes.
Alors, doit-on forcément passer par ce grand déballage médiatique? Je vais commencer avec vous, Perico Légas. Vous avez pensé quoi de Sandrine Rousseau hier?
Alors, elle est formidable parce que finalement, elle a pourri la campagne du candidat des Verts. En fait, elle roule contre son camp. Elle est dans une espèce de haine.
Ça, c'est assez classique chez Europe Écologie des Verts, quand même.
Oui,
ça date pas d'hier.
Mais là, en plus, elle ajoute cette dimension du rapport homme-femme. C'est-à-dire que là, elle démontre que tous les hommes sont potentiellement coupables, ou le sont tous, tant qu'on n'a pas prouvé. Elle a gardé cette information sur Julien Bayou. Elle aurait pu la révéler peut-être avant. Elle la garde au moment de la déballer pour enfoncer un peu plus Quatennens. Elle est dans le règlement de compte interne. Moi, je trouve très sain. Marx a dit, la vérité est toujours révolutionnaire. Donc ce sont des révolutionnaires qui continuent à tout nous dire, mais qui profitent pour dire le reste maintenant. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à se révéler? Et puis surtout, qui se l'applique? Et puis ce qu'on a dit hier, qu'ils aient envers ceux qui sont confrontés aux mêmes tensions, aux mêmes problèmes, la même mansuétude, la même patience, la même compréhension, la même, j'allais dire, dialectique pour expliquer, oui, mais c'est un contexte particulier. Ça, ils le refusent aux autres. En général, quand il y a un accident de comportement chez l'adversaire politique, à la NUPES, c'est voilà, non, c'est impardonnable, il faut éliminer tout de suite.
Bon. Parce qu'on soit dit, Quatennens va se mettre à l'écart de toute vie.
Non, mais l'arroseur est arrosé, ça dédouane pas les autres. Voilà, c'est une grande leçon politique. On verra s'ils vont jusqu'au bout de leur dialectique. J'ai entendu, voilà, Quatennens, sans défenseur, dit oui, mais il a donné, il a fait, par ses aveux, ce qu'il demande aux autres. Au moins, il est allé dans ce geste, j'allais dire, dans ce geste politique, dans cette évolution. Pour autant, nous pensions que c'était tous des gens qui étaient dotés d'une immense vertu, d'une immense rigueur intellectuelle et politique. Hein. Ils sont tous un petit peu des justiciers, on les appelle les Robespierre, qui étaient l'incorruptible. Bon ben, et ça me rassure, ils sont comme nous. C'est des braves gens.
Non, tout le monde ne tape pas sa femme.
Non, c'est pas ça. Ils ont des problèmes. Non, je parlais de groupe.
Ah oui.
Ils ont des problèmes de la société d'aujourd'hui. Finalement, ils sont humains. Ah, ils sont très humains.
C'est une bonne chose.
Ils sont humains. Et la plus humaine de toutes, c'est Sandrine Rousseau avec un petit côté quand même, un petit côté mégère quand même, un petit côté Mère MacMiche, comme ça j'aime bien la... Elle aime bien fouetter, finalement elle aime bien fouetter.
Oui, mais enfin après voilà,
c'est la mère fouettarde.
Oui, mais là on est dans un grand déballage médiatique, mais est-ce que ce déballage il est nécessaire? Et surtout, est-ce que en fait finalement les médias doivent devenir un tribunal, Mathilde Imbert, même si évidemment c'est formidable que toutes ces affaires sortent et que ça veut dire qu'à un moment le combat sur les violences faites aux femmes, il avance, donc ça c'est super. Mais est-ce qu'on doit faire ça dans les médias, quoi, en fait?
C'est extrêmement compliqué. Moi, je trouve que ce sujet est très complexe, qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui la bonne formule, qu'on avance, mais qu'il y a encore un long chemin. Le problème, c'est que si on ne fait pas ce débat-là jusqu'ici, on était dans l'omerta. On l'a vu, hein, Hulot, on le voit aussi dans les médias avec PPDA, un certain nombre d'acteurs politiques qui ont été listés par Rémi juste avant. Ça fait un peu froid dans le dos, et quand on se met du côté des acteurs politiques, on voit très bien comment ça marche. La peur des représailles, que ce soit dans les groupes militants ou que ce soit dans les partis politiques eux-mêmes. Et donc, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre l'omerta qui fait que les femmes sont mises de côté, j'ai envie de dire, du monde politique ou victimes, et j'adresse au passage un message de soutien à toutes les victimes, ou ce grand déballage, je ne sais pas s'il y a un entre-deux possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la balle, elle est plutôt dans le camp des partis politiques d'être exemplaire. C'est-à-dire que contrairement au reste de la population, ils ont un devoir d'exemplarité et c'est pour ça que ça choque. Aujourd'hui, la commission des violences sexistes et sexuelles de ELV a été interpellée. Elle devra répondre rapidement de ce qu'il en est. Moi, je connais pas la
situation. Apparemment, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est ce que dit Sandrine Rousseau, donc ça va pas très vite, hein, quand même. Hein.
Ben, c'est là où je trouve que ELV et les filles qui ont tenu des propos pour la cause féministe pendant toute la campagne sont un peu mises en porte-à-faux. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas mis en place les processus internes qui auraient peut-être permis de faire différemment. Néanmoins, c'est compliqué. Je pense qu'on défriche sur ces terrains qui font quand même mieux que les autres partis, qu'il y a des tentatives qui sont faites.
Ils font mieux que les autres partis, je ne suis pas sûre. Parce que franchement, effectivement, on les croyait très vertueux, les Verts et LFI, parce qu'ils ont fait des violences faites aux femmes, leur cheval de bataille. Et là, on se rend compte qu'ils ne sont pas si vertueux que ça. Enfin, moi,
je dis pas mieux sur les hommes et les violences, je dis mieux sur la manière de le gérer en interne.
Bah là, Europe Écologie Les Verts, ils gèrent mal.
Je pense que déjà, t'as la possibilité d'interpeller une commission spécifique. T'as pas ça à droite. C'est-à-dire, Damien Abad, c'est trois plaintes.
Mais non, mais si c'est un délit punissable par la loi, je suis désolée, c'est pas le tribunal d'Europe Écologie Les Verts qu'il faut aller voir, c'est la police. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait.
Oui, mais t'as un entre-deux, Estelle.
Quand elle dit, cette femme était tellement mal qu'elle a fait une tentative de suicide, et en fait, elle ne fait rien. Mais moi, je suis très choquée par ça.
Je suis complètement d'accord.
C'est bien joli d'aller voir dans les médias, mais qu'est-ce qu'elle fait pour aider?
On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire. Il y a un temps entre le moment où l'affaire sort et le moment où elle passe devant la justice. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps? Qui gère quoi? Ça, on n'a pas encore trouvé la formule. Là où je dis qu'il y a des avancées, plutôt du côté d'Écologie Les Verts et LFI, c'est qu'il y a des commissions qui sont mises en place. Aujourd'hui, pour autant, ils sont loin d'être parfaits et il faut continuer à les regarder et leur dire qu'ils sont pas à la hauteur. Néanmoins, il y a aussi un enjeu sur la justice. On sait qu'il y a 1% des viols seulement qui sont condamnés.
Oui.
On fait quoi des 99% autres? Quel signal ça envoie aux femmes pour porter plainte?
Il y a ça, mais il y a aussi la présomption. Moi, Julien Bayou, jusqu'à preuve du contraire, Adrien Quatennens, il y a eu une main courante contre lui. Et Julien Bayou.
Et il a avoué, il a reconnu. Les faits.
Voilà, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut quand même un moment.
C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un dialogue, une discussion pour trouver la voie entre le moment où l'affaire sort Et le moment où elle passe, elle est classée devant la justice ou pas.
Daniel, c'est plutôt une bonne chose que ces affaires sortent, justement, pour vous.
Bon, écoutez, moi, je bois du petit lait. De voir que la supercherie Nups éclate de cette façon, ça me fait rigoler. Et les filles PC, les verts se tirent dessus, règlement de compte, on déballe la vie privée des uns et des autres. C'est formidable. J'ai noté, suite à l'affaire Quatennens, le tweet absolument horrible de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été retweeté. C'est la première fois par les 70 et quelques autres députés. D'habitude, ils se sont tous sur leur téléphone. On va retweeter le boss. Là, il n'y en a pas un qui a retweeté. Génial, j'ai adoré. Le fond, évidemment, moi, que ces affaires sortent, ça ne me choque pas, et que des types coupables de violences sexuelles, sexistes sur femmes, machin, sont amenés à se retirer de la vie publique, je trouve que c'est normal. Quatennens a avoué, évidemment qu'il y aura une enquête et qu'on connaîtra les circonstances exactes, mais il reconnaît les faits. Je pense que LFI doit lui demander de se mettre en recul, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il ne doit plus être député? Il n'y a pas de révocation de député en France, donc bon, il se soumettra au vote des électeurs. Dans d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec des violences sexistes ou sexuelles, il y a des députés qui avaient commis des choses répréhensibles, qui ont réussi à être réélus. Le peuple décidera. La forme, le grand déballage, Sandrine Rousseau qui est à la télé va balancer la vie privée de Julien Bayou comme ça. Ouais, sa femme a manqué de se suicider. On sait pas bien, on comprend pas la façon dont elle le raconte. C'est formidable. Salut. Mais là, je me range totalement derrière Péricot. En fait, il faut savoir qui sont les gens. Il faut savoir. Sandrine Rousseau et ses amis sont pas simplement des écolos. Ce sont des gens de l'extrême gauche. Ils sont pratiquement au-delà des robespierristes.
C'est un fascisme de gauche.
Ah mais si, c'est un fascisme de gauche. Ça veut dire qu'on veut régler les comptes. Non. Alors là, je n'accepterai pas que vous dodeliniez
sur la forme.
Parce que c'est juste la vérité.
Je dis pas sur le fond.
Sur la forme, c'est du procès stalinien.
Tu parles de la forme, d'accord.
C'est du procès stalinien. C'est on étale et on coupe des têtes. On veut couper des têtes sans procès. C'est comme tu disais, Mathilde, toi tu trouves ça bien les comités internes, mais les comités internes, c'est totalement les comités comment on appelait ça sous la Révolution, où en deux secondes on décidait
de salut public.
De salut public. Où on décidait en deux secondes la tête de qui on allait couper sans faire de procès, en posant trois questions. Et Sandrine Rousseau, elle se prend pour Robespierre au féminin.
Je suis absolument d'accord avec toi, Daniel, sur le fait que ces comités aujourd'hui ne fonctionnent pas bien.
Ah bah c'est sûr.
La question, c'est qu'on est en train d'inventer, on est en train d'évoluer sur ce sujet-là. Alors si c'est pas le grand déballage,
mais il y a une justice.
Si c'est
pour
pas
ça.
Ces comités, non, mais qu'est-ce qu'on fait, Daniel? C'est quoi les alternatives? La justice. Bah t'as vu le temps qu'elle met. Tu fais quoi? C'est-à-dire que t'attends Quatennens, s'il est la réponse de la justice pour savoir s'il continue à être député ou pas?
Non mais attends,
pendant tout ce temps-là,
non mais attends, qu'est-ce qui fait que Quatennens s'y plonge? C'est que pourquoi est-ce qu'il dit j'ai mis une baffe à ma femme? Parce qu'il y a une main courante. La main courante, c'est la justice. Moi c'est ça que
mais
je vois.
Darmanin aussi, il y a une plainte dans ces cas-là. Enfin, tu vois,
Darmanin, il a toujours nié. On peut aussi entendre la parole. Enfin, je veux dire, quand il y a une négation, on
donc
peut aussi l'entendre.
La présomption d'innocence.
Quatennens, il a avoué. Il a avoué.
La présomption d'innocence qui doit s'imposer dans notre droit, factuellement. Elle vole en éclat, elle n'existe plus.
Mais je dis que la question, elle est compliquée. Quand tu vois que autant de pourcentages de viols ne sont pas condamnés, bah oui, ça pose question sur comment fonctionne la justice aujourd'hui.
Mais est-ce
ça
veut que dire c'est un tribunal populaire d'aller condamner quelqu'un?
Non,
mais
c'est pas ce que je dis. N'oublie pas une chose.
Je dis aujourd'hui qu'on n'a pas la solution. Qu'au lieu de s'étriper en disant avoir des jeux de posture, Sandrine Rousseau bidule, machin, il faut réfléchir intelligemment. La justice ne fonctionne pas aujourd'hui. Les femmes en sont victimes. Il faut qu'elles avancent. On n'a pas trouvé aujourd'hui, entre le moment où l'affaire sort et le moment où la justice est prononcée, la solution. Trouvons-la plutôt que de débattre de manière un peu stérile sur ce sujet.
Le problème, c'est d'où ça vient.
Daniel.
Je te signale, tu as fait allusion à l'affaire Darmanin. Il a été blanchi par la justice. Tous ceux qui demandent sans arrêt, il faut que ce soit la justice qui parle, il faut que ce soit la justice qui parle. Médiatiquement, il a été condamné. Dans les manifs, il était condamné. La justice l'a blanchi. Va demander aujourd'hui à Sandrine Rousseau ce qu'elle pense de l'affaire. Elle en a rien à cirer de la décision de justice. Elle continue de dire, elle et tous ses amis, que c'est un violeur. Donc je me demande réellement si eux croient à la justice.
Le problème,
ou aux décisions de justice, puisqu'ils continuent de l'accuser, tous autant qu'ils sont. Le problème, c'est d'où vient la leçon. Et eux, qui sont des énormes et les plus gros donneurs de leçons de la planète, quand ça leur retombe sur la tronche, comme en ce moment, et qu'ils se déchirent tous entre eux là dans la NUPS, pardonne-moi,
Ça me fait doucement rigoler.
Il trouve des excuses qu'il refuse aux autres.
Exactement.
Alors, je voudrais juste qu'on prenne en ligne notre invité. Sur ce débat, c'est une ancienne avocate. Elle est présidente de l'association Femmes et Libres. C'est Yaël Mellul. Bonjour Yaël.
Oui, bonjour.
Et merci.
J'avais hâte que vous me donniez la parole parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je vous cache pas que je suis en train de bouillir de ce que
j'entends. Allez-y.
Mais vraiment, il y a des mots comme ça qui sont sortis vraiment qui me font, qui me mettent très très en colère. Déjà traiter Sandrine Rousseau de mégère, mais c'est quelque chose vraiment qui est scandaleux. Parler de vie privée alors qu'on parle de violences faites aux femmes, c'est être en décalage total. Quand vous parlez de ce type de dossier sans jamais avoir même parlé à une femme victime de violences, on est dans la méconnaissance totale de ce type d'affaires. On ne peut pas aujourd'hui reprocher à une femme comme Sandrine Rousseau d'avoir dénoncé des faits d'une exceptionnelle gravité. Ce n'est pas possible de le faire.
Et il faut qu'elle les dénonce dans les médias et pas à la police, en fait. Ça ne vous gêne pas. Vous qui êtes ancienne avocate, ça vous gêne pas.
Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Madame. Ah, d'accord.
C'est pas comme ça que ça se passe. Quand une victime, elle vient vous voir, on va pas déposer et qu'elle vient vous déverser ses souffrances, sa douleur, les violences qu'elle a subies, on va pas déposer plainte dans la seconde. Déjà.
En revanche, on parle à la télé. Voilà.
Non. Mais déjà, d'une part, il faut attendre que la victime soit en état psychique et physique de déposer plainte, parce que déposer plainte, c'est pas juste passer 2 heures de son temps au commissariat ou la gendarmerie
pour parler.
C'est pas ça. C'est un très long parcours qui est extrêmement complexe, extrêmement douloureux. Donc déjà, il faut qu'on ait en face une femme qui soit en mesure de supporter ce chemin qui est semé d'embûches. Déjà, d'une part. Ensuite, il faut constituer un dossier. Un dossier, ça ne se constitue pas en 4 minutes, d'accord ? Il faut arriver avec des faisceaux d'indices, il faut arriver avec des preuves, il faut arriver avec des témoignages. Et ça ne se fait pas comme ça, d'accord ? Donc, on ne peut pas reprocher à des victimes à la fois de parler et de ne pas déposer plainte, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de constituer ces dossiers, d'accord ? Donc, aujourd'hui, quand vous reprochez à Sandrine Rousseau de dénoncer des faits d'une exceptionnelle gravité, vous êtes complètement à côté de la plaque.
Déjà, elle n'a pas parlé des faits. Voilà. Elle n'a pas parlé des faits.
C'est
ce qui nous a gênés. Voilà. Évidemment que
c'est grand public.
Si Julien Bayou est coupable,
Moi, je vous dis que si Sandrine Rousseau hier soir a évoqué pour la première fois ces faits contre Julien Bayou, c'est qu'elle avait, je suppose, et j'en suis quasiment certaine, c'est qu'elle avait l'autorisation de la victime. Sinon, jamais elle ne l'aurait fait.
Mais je l'espère.
Qu'elle avait l'autorisation de qui ?
De la victime.
Je l'espère.
Donc, il faut une autorisation.
Voilà. Ouais, mais évidemment qu'il faut une autorisation. Ouais. Vous savez, moi, le nombre de victimes qui me contactent par jour...
Non, mais je suis d'accord qu'il faut une autorisation, mais là...
Jamais je ne parlerai sans avoir l'accord de la personne. Jamais. Voilà, jamais. C'est une question de confiance.
Elle a appelé Julien Bayou pour avoir son avis, à votre avis, avant ou non ?
Mais on n'est pas dans le contradictoire.
D'accord.
C'est pas une
moi, j'aurais passé,
hein,
parce que c'est un ami politique, quand même. J'aurais passé un coup de fil à Julien Bayou.
On a dit que c'était un procès d'extrême gauche.
C'est aux journalistes de faire leur métier. C'est aux journalistes de respecter le contradictoire. Moi, quand j'ai une victime qui me contacte...
Il restait 30 secondes d'émission. L'émission allait se couper. Et donc, il n'y avait pas possibilité à la contradiction. On ne pouvait pas dire ça. Ils ont coupé l'émission juste derrière.
Elle est venue, elle a déballé, et basta, voilà, c'est tout.
Mais et alors, elle est venue dénoncer, elle n'est pas venue déballer, pardon.
Elle n'a pas prévenu Julien Bayou qu'elle allait le mettre en cause.
Après, c'est aux journalistes de respecter la
contradiction
et de contacter Julien Bayou. Moi, quand j'ai des victimes qui me contactent, je n'ai pas appelé l'agresseur présumé. Jamais je n'ai de contact avec lui. Jamais. C'est pas mon rôle.
Ils ont des liens politiques, c'est pas un adversaire.
Oui, ils sont pas inconnus l'un pour l'autre. Voilà.
Après, en même temps, madame, je sais pas pourquoi vous vous énervez autant, parce que nous, on n'est pas contre qu'on condamne ou qu'on mette en avant un coupable. Ça nous a pas posé de problème.
Vous vous trompez de responsable.
Mais pas du tout. Mais en fait, vous nous prêtez des intentions ou des propos qu'on n'a pas tenus. Vraiment, je sais pas pourquoi vous mettez dans cet état.
Je vous ai entendu pendant 8 minutes avant de passer.
Mais je pense que vous avez entendu comme vous aviez envie d'entendre.
Non, je ne vous ai pas entendu parler de victime. Je vous ai entendu parler de Sandrine Rousseau. Je vous ai entendu parler de politique.
Non, parce que dans un premier temps, on a tous dit, alors peut-être pas assez fort, vous ne l'avez pas entendu, qu'on trouvait tous ça bien quand les victimes pouvaient être reconnues, entendues, et que si des gens étaient coupables de tels faits, qu'ils se mettent, puisqu'on parlait de vie politique, qu'ils se mettent en retrait de la vie politique. On était tous d'accord avec ça. Nous, après, ce dont on a parlé, c'est la forme, la façon dont c'est fait, et surtout de qui ça émanait.
La façon de communiquer.
Mais peu importe.
C'est tout.
Mais parce que là, vous faites de la l'appropriation politicienne, vous faites de la politique, là où il s'agit de violences faites aux femmes.
Mais à partir du moment où on l'a reconnu, on était passé à autre chose.
Mais tout le monde a dit que la libération de la parole était nécessaire, c'était une bonne chose.
On est tous d'accord.
Mathilde l'a répété, tout le monde l'a dit. Là, on parle, là pour le coup, alors peut-être qu'on n'a pas assez parlé du fond, mais on en a beaucoup parlé déjà hier sur l'affaire Adrien Quatennens. Mais là, c'est sur la forme. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les médias doivent se substituer à la justice? C'est ça la question.
Mais c'est pas question. Non, évidemment pas.
C'est la question.
Mais sauf que le temps.
Ça n'a rien à voir avec le fond.
Sauf que le temps de la justice est un temps qui est extrêmement long et qui
c'est
n'a
ce qu'a dit
absolument
Mathilde.
Et qui n'a absolument rien à voir avec le temps des médias. Et aujourd'hui, hélas, j'ai envie de dire, hélas, souvent les victimes, parce qu'elles ont affaire à des hommes puissants, parce qu'elles ont affaire à des hommes de pouvoir, qui ont des réseaux, qui ont de l'argent, elles sont contraintes d'utiliser ces moyens-là. Elles sont contraintes d'utiliser les réseaux sociaux. Elles sont contraintes.
Madame Mellul, je peux vous poser une question.
Pour l'affaire PPDA, c'est malheureuse là. C'est 30 femmes qui dénoncent.
Oui.
D'accord. Pour des faits qui sont prescrits, quels autres moyens elles ont de dénoncer les faits dont elles ont été victimes?
Mais attendez, mais en plus, alors là, vous pouvez pas nous taxer ça. On a été quasiment les premiers à en parler.
Absolument.
Et donc voilà, on a une chroniqueuse qui fait partie de cette affaire. Donc là, franchement,
Madame Mellul,
moi, je veux que vous nous jetiez la pierre, mais pas là-dessus.
Non, mais moi, je vais récupérer la pierre, Madame Mellul. Permettez-moi deux secondes. Madame Mellul. Je faisais allusion il y a 2 minutes. Je faisais allusion il y a 2 minutes à l'affaire Darmanin, par exemple. Où médiatiquement, dans les manifs, il était accusé. Finalement, la justice s'est prononcée et l'a blanchi. Ça n'empêche pas énormément de gens, et notamment dans le parti de Madame Rousseau, de continuer à le trouver coupable. Point. L'année dernière, il y a eu une affaire très médiatique. Je vais dans le sens d'Estelle, qui dit est-ce que c'est sur les plateaux de télé que sur un plateau de télé, j'ai oublié son nom, une judokate est venue, elle avait des bleus, elle s'est plaint. D'avoir été battu par son mari, fiancé, je sais plus, qui lui aussi est judoka. Ça a été une affaire dont on a pas mal parlé. Lui ensuite est venu également sur le plateau pour dire qu'il était innocent. Alors là, je sais pas moi, les médias effectivement après les journalistes ont cherché à enquêter
et nous très vite.
Et nous très vite on a compris que c'était pas aussi clair que ça en avait l'air. Au final, qu'a fait la justice? Elle a innocenté le judoka. Alors c'est pas pour dire attention, il faut pas écouter les victimes. Loin de moi, parce que vous avez raison de toujours dire que dans 95% des cas,
99.
Même plus, voilà, c'est la femme qui est victime et que ça se passe comme ça, très bien. Mais ces exceptions-là, il faut jamais oublier d'en parler quand même. Il faut toujours laisser une petite porte. Vous êtes d'accord quand même?
Oui, mais quand il y a autant d'exceptions, en fait, quand il y a autant d'exceptions, 99%, ça devient un problème de société qu'il faut traiter.
Moi, je suis d'accord, mais absolument.
Et donc, il y a un moment où on peut pas dire.
Non, on parlait juste de la forme sur les plateaux télé. C'est le problème que ça peut représenter. Le judoka, repasse-toi toutes les émissions à l'époque. À sa place, à lui, il a perdu son travail. Il pouvait obtenir un emploi, je sais plus dans quelle fédération, vraiment un bon job. Il ne l'a pas eu. Ça a été compliqué, j'imagine.
Je suis d'accord.
Le procès médiatique, ça n'a rien à voir, mais dans le procès des deux footballeuses, procès médiatique pendant 9 mois, il y a une joueuse qui a vécu un enfer.
Oui,
et
la trentaine de femmes qui a été victime de PPDA ont vécu
également un enfer.
En silence.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut se poser des questions.
Il faut se poser la question entre omerta et tribunal populaire.
Voilà.
Quelle est la bonne voie?
Voilà.
On est d'accord.
Et moi, je pense qu'il y a un enjeu sur la justice aussi, pas que sur le moment médiatique.
On est d'accord.
Mettez-vous à la place d'une femme, vraiment, sur.
Et sur la
quand vous allez porter plainte auprès des policiers, ils ne sont pas formés à ça. Ils sont hyper maladroits, voire parfois se disent on a plus important à faire. Donc il y a un enjeu là aussi à former les policiers pour que la parole des femmes puisse être recueillie. C'est pas évident d'aller dire quand vous êtes victime, je vais porter plainte. Il y a un enjeu de ce côté-là.
Oui.
Après vous avez un psychologue qui vous reçoit, qui essaie de voir toutes vos failles psychologiques pour savoir si vous n'êtes pas un peu taré et si c'est pas vous finalement qui avez incité l'homme à avoir. Enfin, ce processus-là, il doit être vu de fond en comble. Oui. Et donc moi, je pense qu'il faut arrêter de taper sur les femmes qui essayent de construire, les féministes qui essayent de construire le chemin pour trouver des solutions, et plutôt se dire, réfléchir, entre l'omerta et le tribunal populaire, c'est quoi la solution, et réfléchir plutôt que se taper dessus.
Oui, peut-être réfléchir tous ensemble également. Yael Mellul, je vous laisse le mot de la fin. En fait, est-ce qu'il faut aussi que les partis se structurent plus, peut-être, et fassent un peu plus comme, LFI, Adrien Quatennens s'est mis en retrait, mais je veux dire, fassent un peu la la chasse aux, leur propre chasse aux sorcières, on va dire.
Ah, mais moi, je pense qu'on est vraiment à un tournant essentiel de la vie politique en France, où il faut qu'il y ait un énorme ménage qui soit fait dans tous les partis politiques. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui n'est crédible sur ces questions-là, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que tous les partis politiques, sans exception, ont été touchés ou par des violences conjugales, ou par des violences sexuelles, et ont couvert à un moment donné un de leurs membres. Donc là, il y a tout à faire. Il y a tout à détruire et à reconstruire en réalité. Parce qu'on parle là, on parle, alors on peut parler de ministres, mais on peut aussi parler de députés qui représentent notre République, qui nous représentent, vous bien et sûr. Moi, et qui votent nos lois. Donc comment un homme violent, ou comment un homme qui s'est rendu coupable, ou qui est accusé de viol, peut s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas possible. Donc le système, il est vicié, il est pourri de l'intérieur.
Et il faut le revoir, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais merci en tout cas, Yael Mellul, d'avoir été avec nous sur ce débat. Présidente de l'association Femmes et Libres, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Les violences sur les femmes en politique, le déballage médiatique est-il nécessaire, Rémi ?
Alors, c'est assez étonnant. Enfin, personnellement, ça m'étonne. Mais c'est le oui qui l'emporte, et d'une manière assez large, hein, puisque c'est oui à 63%.
Mais les gens sont prêts. Hein. Ouais, le monde politique et médiatique, peut-être moins, mais les gens sont prêts.
Il faut arrêter de dire que les policiers ne sont pas formés à ça, parce que depuis plus de deux ans maintenant.
Il y a les programmes.
C'est le début.
Ils ont des formations, ils ont obligation, parce que c'est l'instruction du ministère de l'Intérieur de prendre toutes les plaintes. Donc il faut arrêter de dire sans arrêt qu'ils ont affaire à un agent qui ne comprend rien. Moi, je dis qu'il faut souligner plutôt quand ça progresse que l'inverse.
Mais je l'ai dit, hein, que ça avance.
Allez, dans un instant, tout autre sujet, on parlera de la fac de Strasbourg qui a décidé de fermer pendant deux semaines pour faire des économies d'énergie. Est-ce que ça vous choque? À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 34, vous êtes sur RMC, on est de retour dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Mathilde Himmer et Perico Légas. Et puis avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à la décision du jour. Et c'est celle prise par la fac de Strasbourg pour faire des économies d'énergie. L'université a décidé tout simplement de fermer deux semaines en décembre. Les étudiants seront donc en distanciel pendant une semaine et ils gagneront également, comme les profs, une semaine de vacances. Et cette décision suscite beaucoup de réactions.
Exactement, avec le syndicat FSU qui parle notamment d'entorse au principe de continuité du service public. Il estime que ces mesures reviennent à un télétravail imposé pour certains personnels et conduiront à faire peser sur les salariés des frais de chauffage et d'électricité qui devraient être à la charge de l'employeur. La CGT des établissements d'enseignement supérieur et de recherche rappelle de son côté que le télétravail ne peut se faire que sur la base du volontariat et que l'enseignement à distance ne saurait être un moyen de pallier les manques d'investissement de l'État. L'État mis en cause également implicitement par le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken. Il rappelle que face à l'explosion des prix, le gouvernement a fixé aux établissements publics l'objectif de réduire de 10% leur consommation d'énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019. Or, à Strasbourg, avec 57 000 étudiants, les dépenses d'électricité, de gaz et de chauffage sur le réseau de l'université sont déjà passées de 10 millions d'euros en 2021 à 13 millions d'euros cette année. Et ces dépenses devraient atteindre au moins 20 millions d'euros l'an prochain.
Enfin, il y a peut-être d'autres solutions que de fermer une fac pendant deux semaines. Alors, une semaine de vacances en plus pour faire des économies d'énergie. Est-ce que ça vous choque, Daniel ?
Alors, il y a eu, j'allais interrompre Rémi pour lui demander, au milieu de tous ces chiffres, est-ce qu'il y a celui de l'économie réelle
de ces deux semaines ?
De ces deux semaines.
Eh bien, nous allons le chercher.
Bah, le budget total de. Alors, oui, sur les 100 millions.
Le budget total, c'est 600 millions.
Ouais, c'est ça.
La facture, elle augmente de.
On est passé de 10 millions en 2021, 13 et 20 pour l'année
prochaine. Et 20 pour l'année prochaine. Donc, ça, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que ça va permettre d'économiser les deux semaines ? En gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
C'est deux semaines d'hiver, donc déjà.
Parce que quand j'ai entendu qu'on avait parlé de ça. J'avoue que j'ai eu du mal à me positionner. À part une phrase un peu bébête qui était de dire c'est quand même pas facile l'écologie parce que vous avez des syndicats vent debout alors que peut-être sur d'autres questions liées à l'écologie ils vont plutôt être d'accord. Là, non. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, la semaine en plus à Noël, c'est vrai que comme le dit le directeur, c'est pas la semaine où les étudiants vont aller le plus. Mais enfin, au final, Oui, s'il y en a qui peuvent pas bosser chez eux, qui ont besoin d'aller à la bibliothèque ou de bosser pour les études, d'un coup ils vont pas pouvoir y aller. Sans concertation, sans qu'on consulte soit les syndicats d'étudiants, soit qu'on leur pose la question. L'autre il se réveille, il fait sa vidéo YouTube et il annonce ça. Choquant, je sais pas. Mais ça m'interpelle quand même un peu.
Bah moi que tu sois mou sur ce sujet, ça m'interpelle. On passe un temps à parler du on passe un temps à parler du classement PISA, etc. Et là, on va filer deux semaines de vacances comme ça à des étudiants bâtisseurs parce qu'ils vont faire des économies d'énergie. On passe notre temps à nous dire, vous avez qu'à chauffer moins, et vous avez qu'à mettre des pulls.
Mais dans 30 secondes, je peux être à 100% de ton côté. Emmène-moi là, vas-y.
Je te dis pas qu'il faut que tu mettes une doudoune, mais peut-être que tu peux trouver un. Voilà, peut-être que. Alors, j'entends bien qu'à 15, il fait froid, c'est chiant, bon, d'accord. Oui. Mais peut-être qu'au lieu de couper la fac deux semaines, c'est énorme deux semaines, plus tes semaines de vacances, donc ça te fait quatre semaines.
Oui, oui.
Peut-être que tu peux chauffer un petit peu moins. Peut-être que là, au lieu de mettre le chauffage.
Bah déjà, ils l'ont annoncé à 19.
Oui,
enfin,
peut-être que de mettre
à 19,
le chauffage.
Le plus tard possible.
Plutôt que de mettre le chauffage le 30 septembre, bah, tu le recules le 15 octobre.
C'est ce que prévoit l'université.
Tout faire pour pas fermer pendant deux semaines. Alors, Mathilde, je sais que vous êtes militante écologiste, mais est-ce que quand même, il y a un truc qui va pas là.
Bah si, il y a un truc qui va pas.
Ah, quand même.
Mais en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que les écologistes, que les scientifiques nous disent, on va avoir un problème sur l'énergie, qui va devenir de plus en plus cher. On va avoir un problème sur le changement climatique. Les pouvoirs publics n'ont rien fait. Donc évidemment, on a un problème. Aujourd'hui, au lieu d'avoir eu une écologie joyeuse, populaire, heureuse, on se tape une écologie qui veut dire moins de pouvoir d'achat et de la culpabilisation, ou plus au passage des gens. Donc c'est ça qu'il faut changer. La réalité, c'est que la responsabilité. Il y a des solutions.
Alors, attends.
La responsabilité, c'est quand même celle. Et je le dis là, des pouvoirs publics qui savent depuis des années et des années que la rénovation thermique des bâtiments, c'est un des premiers gisements à la fois de consommation d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'empreinte carbone de la France. Pourquoi ça n'a pas été fait? La réponse, elle est simple, c'est que aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont pas voulu mettre soit l'argent sur la table, soit aller voir les banques en leur disant vous faites des prêts à taux zéro. À nouveau, je reprends cet exemple, la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort, de droite, de gauche, des extrêmes, des petits patrons, des salariés qui se sont réunis, ont dit en tout bon sens, il faut entamer et faire un grand plan de rénovation thermique des bâtiments pour qu'on n'ait pas des prix de l'énergie qui augmentent de manière stupide
Il faut fermer pour faire les travaux alors.
Et ben donc là maintenant, qu'est-ce que déjà l'État peut faire ce grand plan de rénovation thermique des bâtiments? Ça crée de l'emploi non délocalisable, ça crée des économies d'énergie, ça fait marcher la machine économique. Donc il y a pas de raison, mis à part les banques qui ne veulent pas faire des prêts à taux zéro, de pas le faire. Et ça, je pense qu'il y a une discussion avec les banques à avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer en effet quand on le peut de regarder toutes les solutions alternatives à la fermeture, que ce soit des piscines, des facs. Je ne connais pas spécifiquement, et la question d'année était juste.
Il fait froid, voilà. Les
réductions permises par cette mesure, est-ce qu'il y a des alternatives ou pas? J'en sais rien, il faudrait regarder vraiment au cas par cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment où il faudra aussi poser la question de la responsabilité des pouvoirs publics qui n'ont rien fait sur les questions dites écolo, qui deviennent des questions de pouvoir d'achat.
Mais là, ça tombe sur les étudiants et c'est quand même dommage pour
moi.
Je vous garde au congélateur pendant quelques secondes, le temps de prendre Achour qui nous a appelé au 32-16 depuis Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Bonjour Achour.
Oui, bonjour. Bon, bah, je vous ai écouté attentivement, à philosopher sur toute cette histoire d'énergie et du coût énergétique. Maintenant, il faut se mettre juste à la place de la personne à la comptabilité de cette fac qui tient les factures et qui se dit dans sa tête, qui dit mince, monsieur le directeur, on va pas.
Ah, vous êtes comptable à jour.
Comment?
Vous êtes comptable?
Je suis pas comptable, mais il faut se poser la question du comptable. En général,
d'accord,
quand on ferme, c'est une question de comptabilité. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas dans la possibilité de payer les factures. Et ça, c'est n'importe qui. N'importe qui avec un foyer, d'accord? Donc, arrive un moment, on fait quoi? On continue à faire cuire. Quitte à ce qu'après, parce que EDF l'a bien dit, Pourtant, EDF est quand même une entreprise qui cherche à amasser de l'argent en vendant de l'électricité. Là, c'est le contraire. Elle nous prévient, il risquerait d'avoir des coupures. Donc, comme disait la dame juste avant, elle a répondu en gros à la question, il faut bien trouver une solution. Là, cette fac trouve une solution, c'est que pour pouvoir peut-être supporter et rebondir quand l'année prochaine il va y avoir les augmentations, de fermer, faire des économies. Et peut-être justement d'aller.
Mais peut-être il y a d'autres solutions, Achour. Peut-être il y a d'autres solutions. Et puis après, l'été à la fac, vous avez 4 mois de vacances. Donc.
Vous avez trouvé d'autres solutions? Vous ne savez pas, vous parlez dans le vide.
Mais les solutions, je suis désolée, là vous fermez deux semaines, mais peut-être, encore une fois, qu'il y a d'autres solutions. Peut-être qu'au lieu de chauffer à 19, vous chauffez à 15.
Ils n'arrivent pas à payer les factures. Vous savez, le jour où il y aura plus d'électricité, vous pouvez donner tout l'argent du monde. 2000, 3000, s'il y a un chèque. Mais non, mais monsieur, il n'y a plus d'électricité. Je veux bien récupérer votre argent, mais je ne peux pas vous donner. On est obligé de couper les centrales parce qu'il n'y a plus assez d'électricité pour tout le monde. C'est ça que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête. Donc quand on dit que l'État nous prend pour des enfants, mais oui, on est des enfants la plupart, parce qu'il y en a certains, ils comprennent. Moi, j'en suis arrivé à mon ballon d'eau chaude de le couper et de le mettre en route quand mon ballon d'eau chaude ne fournit plus assez d'eau chaude. Parce qu'habituellement, il tournait tous les jours pendant les heures creuses. Mais moi, je suis tout seul. Et je me suis dit, mais mon ballon d'eau chaude ne sert, je l'utilise pas la totalité par rapport au temps de chauffe.
Vous avez fait des efforts.
Ma facture d'électricité, c'est 50% de consommation d'énergie par rapport à tous les autres appareils. Donc ça m'a permis de faire des économies. Et j'ai même revu ma puissance KV1 de mon compteur à la baisse.
Non mais ça, je suis d'accord à choix que tout le monde doit faire des efforts. Nous, on se pose juste la question de est-ce que ce sont les bons efforts. Moi, je suis désolée, je suis choquée qu'une fac ferme pendant deux semaines.
C'est quoi pour vous les bons efforts?
Non mais attendez, je suis pas directrice de la fac et je veux dire là tout d'un coup. Mais non mais à choix, excusez-moi, pardon, mais Daniel le disait, ça a été fait et Rémi le disait aussi, ça a été fait sans concertation. Ils se sont pas rendus compte, pardon, le 20 septembre qu'il allait faire froid cet hiver et que on allait dépenser de l'énergie. Ce qui est gênant là-dedans, c'est le manque de concertation. L'énergie flambe, on le sait pas depuis une semaine.
Le président de l'université, il est allé plus loin, c'est Michel Denequin. Il le dit, là, on lui demande, l'État lui demande, lui impose de faire une économie de 10% de sa facture d'énergie. Il lui dit, et il y a le pendant, c'est-à-dire la réalité économique. On l'a dit, l'énergie, c'est à peu près 35% du budget de l'université.
Oui.
Donc il dit, moi-même, mon budget est passé de 10 millions...
L'État, ils auraient pu demander avant.
Il est passé de 10 millions de dépenses
à 13, j'entends.
Pour le chauffage en 2021, à 20 millions au moins en 2023. En 2023. Donc il le dit, moi, financièrement, il faut que je m'en sorte. Et je termine juste, Estelle. Il le dit, non mais là, je vais faire quelques économies en faisant ça. Je vais faire quelques économies, mais ça sera même pas suffisant. Il va falloir que je fasse autrement. Et il le dit lui-même, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir au rythme universitaire? Et il prend l'exemple de l'Allemagne, où les universités sont fermées beaucoup plus longuement en hiver. Et par contre, oui, on fait cours en été.
C'est comme le foot. En Allemagne, il y a une trêve hivernale qui est beaucoup plus longue. Périco, les gars, malheureusement, on n'avait plus beaucoup de temps.
Est-ce qu'on remplace les cours par de la visioconférence, par du
Une semaine sur deux, c'est ça que j'ai pas compris.
Bon, donc l'énergie, elle n'est pas tellement économisée que ça. Elle est juste déplacée. Je crains surtout que ça signifie que l'autorité politique considère que les cours c'est pas très grave, de 3 heures en moins, le diplôme, tout ça, puisque ça vaut rien, et puisque l'université... Pour moi, c'est effarant. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'étudiant. Je croyais que l'instruction publique était obligatoire, qu'un étudiant, c'était sacré, c'est la France de demain, et on va taper dans le cours de l'étudiant, c'est-à-dire ce qui est fondamental pour le maintien de l'énergie nationale, enfin du savoir. On va taper dans ce qu'il y a de plus précieux. J'espère pas qu'ils vont nous dire un jour on va couper l'hôpital là parce que faut arrêter de tomber malade parce que on n'en est pas là. Mais ça veut dire qu'il y a de la part du pouvoir public la considération. Donc ça veut dire dans l'université rien. Tout ça pour eux c'est du flan et les diplômes ça n'a plus de valeur. On peut couper 2 heures, 4 heures et 3 mois s'il faut. Voilà. Alors qu'on en soit arrivé là, quand même tirons la conclusion. On savait qu'on avait d'autres solutions. Beaucoup de grands esprits et des grandes voix ont prévenu qu'on en allait arriver là. La classe politique jusqu'au problème, que dalle. Voilà. C'était le problème du nucléaire. Ouais. On la paye très cher, l'acheté sur le nucléaire. On la paye très très cher.
On peut en vouloir aux politiques, effectivement. Fermeture de l'université de Strasbourg pour 2 semaines. Est-ce que c'est choquant ou pas, Rémi?
Sans grande surprise, là, pour le coup, c'est 67% d'entre vous qui avaient voté sur les réseaux sociaux qui estiment que c'est choquant. Peut-être une fermeture.
Allez, dans un instant, Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès. Il nous parlera de la lutte contre les smombies. Ce sont ces piétons qui regardent en permanence leur téléphone portable et c'est très 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 dangereux. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, il est midi 50 et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, on va s'attaquer au phénomène des smombies. Je sais pas si je dis ça bien.
Si, c'est ça.
Ok.
Ça vient d'Allemagne, alors, la prononciation. C'est un mot valise, donc c'est smartphone et zombie.
Ah oui, d'accord. Ah. Et en fait, ce sont ces gens, ces piétons, qui ne regardent plus du tout devant ou à côté d'eux. Ils sont sur leur portable et ils manquent de se faire écraser une fois sur deux.
Ou de nous écraser, ou de nous rentrer dedans, parce que c'est ça.
C'est alors, ça. Peut-être, c'est
parfois, on est tous un peu smombies aussi. Je sais pas si ça vous arrive, mais
non,
jamais, vous faites vraiment attention.
Moi,
oui.
Mais attends, t'as oublié, faut ajouter quand il y a
les écoutons, bien sûr. Non, mais c'est problématique.
Il y a quand même en trottinette.
Mais moi, j'ai mon plan dessus.
Sur, ben oui, alors pour le GPS, ouais. Alors en attendant d'avoir les lunettes avec le GPS à l'intérieur, enfin on en reparlera une autre fois de ça. Oui, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui font pas tellement attention. C'est dangereux et donc les villes en fait sont obligées de s'adapter, c'est-à-dire de mettre en place des technologies pour eh bien éviter que les gens se fassent écraser. Par exemple, les signalisations sont en train d'évoluer dans des villes. Alors ça va de Singapour à Tel Aviv, en passant par Hong Kong, Amsterdam. Et on m'a même dit qu'il y en avait à Paris. Alors je les ai pas vus. Oh. À certains endroits, ce sont les feux de signalisation pour piétons qui sont remplacés, donc les petits bonhommes rouges, petits bonhommes verts. Hein, par des signalisations au sol. C'est-à-dire que vous avez des diodes électroluminescentes intégrées dans le trottoir pour être sûr que si vous êtes en train de lire un texto ou de regarder si vous avez des likes sur Instagram, bah vous le voyez bien quand vous êtes en train de marcher. Voilà, c'est au niveau des yeux. Voilà, ça c'est en train d'arriver.
Donc on s'adapte à ces gens-là, quoi.
Eh ben exactement. Mais c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Je vais vous donner quelques autres exemples. Ça peut être des avertisseurs sonores aussi qui sont intégrés au feu de signalisation pour être sûr quand même que vous ratiez pas et que vous fassiez pas écraser.
Pour les non-voyants, ça existe.
Oui, bah oui, mais c'est aussi, maintenant, il y en a pour les smombies, hein, de la même manière. Vous avez même, alors en Corée du Sud, ils ont testé et financé une application destinée notamment aux adolescents qui bloque les smartphones quand vous marchez. C'est-à-dire que quand vous utilisez le téléphone et que vous marchez plus de 7 pas, le truc se bloque et vous ne pouvez plus le débloquer sauf si vous arrêtez de marcher. Donc là, c'est assez radical. Et alors, c'est en Autriche qu'ils ont. Ouais, c'est pas mal. Ça va loin quand même, hein, parce que en termes de restriction des libertés, quand même. Après, voilà, on n'est pas obligé d'avoir. Bon, je sais. Et en Autriche, ils ont testé carrément les airbags sur les lampadaires. C'est-à-dire que en gros, c'était très malin. Bon, c'était pour une campagne de prévention, mais c'était quand même assez malin.
Génial.
Donc des gros airbags qui se déclenchent, voilà, quand vous rentrez pour éviter les marcheurs un peu inattentifs, notamment.
Moi, franchement, je le laisserai se tamponner contre l'envers, ça lui fera les pieds,
c'est
comme
vrai.
Ça.
Bah, c'est comme ça, il fera gaffe la prochaine fois. Il tire au canon sur le mec tout de suite.
Ah oui, il y a Corée du Sud,
ça marche très bien.
Deux écoles.
En Chine, apparemment, il y a des pistes spéciales pour les smombies.
Alors oui, ils ont testé ça il y a quelques années. Donc de la même manière qu'il y a des pistes cyclables, ils ont mis en place des pistes téléphonables. Donc c'est vraiment ça. Donc vous les remarquez parce que vous avez un petit logo smartphone sur la piste.
Non, mais ça existe vraiment.
J'adore.
Là, on n'est pas vraiment, on n'est pas sur une autre planète.
On te dit que ça existe en Chine.
Ça existe, mais ça fonctionne pas très bien. C'est un peu le problème.
Vu qu'Hidalgo, il écoute pas l'émission.
Ça peut donner des idées, effectivement. Alors, ça fonctionne pas très bien. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les gens ont une fâcheuse tendance à prendre en photo la piste téléphonable, parce que c'est quand même assez insolite. Et donc, du coup, ça crée des bouchons. Et puis, en plus, comme les gens sont pas très attentifs globalement, en fait, ils voient même pas qu'il y a une piste spéciale. Et
ils se rendent dedans, en fait.
Ils se rendent dedans. Donc, finalement, en termes d'efficacité, c'est pas forcément génial.
L'idéal serait d'avoir un troisième œil, en fait.
Ouais, et ben alors ça va arriver. Alors figurez-vous, c'est un inventeur sud-coréen qui a mis au point un œil électronique qui se porte sur le front, comme une lampe frontale. Et je vous jure.
Faut oublier d'en tirer quand tu m'en bois.
Oui, alors c'est ça. Parce que franchement, alors niveau look, faut assumer dans la rue, mais ça permet.
T'as gardé ton œil.
Désolé, t'as ton troisième œil là. Donc ça analyse en fait vos mouvements, l'inclinaison de la tête, les obstacles qui sont à proximité, et là vous avez une petite alerte pour éviter de vous prendre un poteau. Non, en vrai, il a créé ça avec une vision satirique. En fait, c'était pour se moquer, voilà, justement, des dérives.
Anthony, un jour sur deux, tu me fous les jetons quand même.
Non, mais là, c'est pour la blague.
L'œil,
c'est pour la blague.
On n'est pas obligé de mettre, on peut se le mettre où on veut, l'œil.
Ah, mais tu le mets où tu veux, Ferry. Après, mais alors là, il n'y a aucun problème. Tu l'as acheté, tu fais ce que tu veux.
Anthony, on parle de quoi demain?
Alors demain, ça va être moins rigolo. On va parler d'Alzheimer. Demain, c'est la journée de la maladie d'Alzheimer, mais il y a énormément d'innovations technologiques dans le domaine du dépistage et dans le domaine de, alors non pas du soin, malheureusement, et de l'accompagnement des patients, puisqu'on peut pas encore soigner, évidemment, ces maladies neurodégénératives.
Eh ben merci beaucoup Anthony, ce sera demain 12h50 dans Estelle Midi. Nous sommes le 20 septembre, dans deux mois c'est le 20 novembre, et le 20 novembre c'est le début de la Coupe du Monde, et comment vous dire que ça ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour l'équipe de France, entre les scandales, les blessures, les mauvais résultats. Est-ce que vous êtes inquiet pour les Bleus? À deux mois du Mondial, on attend vos appels au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.